VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Des centaines de personnes ont manifesté en Algérie dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour protester contre une autre candidature du chef de l'État. L'équipe de campagne d'Abdelaziz Bouteflika a officiellement déposé dimanche son dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril pour un cinquième mandat massivement et qu'il s'est engagé à ne pas terminer. Le message n'a apparemment pas convaincu les Algériens. De nouvelles marches nocturnes se sont déroulées dans le centre d'Alger, survolées par un hélicoptère où plusieurs centaines de jeunes défilaient dans le calme et dans d'autres villes. Un important dispositif policier s'est progressivement déployé dans le centre-ville de la capitale, alors qu'aucun policier n'était visible au début des marches dans ce quartier. Le photojournaliste égyptien Mahmoud Abouzeid, dit Chokan, détenu depuis 2013 pour avoir couvert la répression sanglante d'une manifestation d'islamistes au Caire, a été remis en liberté ce matin. Un tribunal l'avait condamné à 5 ans de prison en septembre, ce qui couvrait sa détention. Mais le photographe est resté en prison plusieurs mois après cette décision, sa situation n'ayant pas été régularisée avec l'administration pénitentiaire au moment de la décision du tribunal. En République centrafricaine, le nouveau gouvernement post-accord de Khartoum a été dévoilé hier dimanche. Pas de changement majeur, mais à noter une légère augmentation des portefeuilles ministériels qui ont été portés de 34 à 36. À Bangui, retrouvons notre correspondant Freeman Sepila.
La quasi-totalité des membres de l'ancien gouvernement sont non seulement maintenus, mais conservent également leur poste. 15 nouveaux entrants contre 21 anciens pour un total de 8 femmes. Des représentants des partis politiques, des groupes armés, mais aussi de la société civile y sont représentés. Marie-Noëlle Koyara, la première femme ministre de la Défense en Centrafrique, garde son portefeuille. Un nouveau ministère dit de désarmement est créé et c'est le chef de l'aile dure anti-Balaka, Maxime Mokom, qui l'occupe. Il est secondé d'un délégué, le colonel des forces armées centrafricaines, Bienvenu Célesson. Les affaires étrangères restent sous les commandes de Sylvie Baipo-Témon, nommée fin 2018 dans l'ancien gouvernement et très peu connue dans le milieu politique. On note cependant la sortie de Herbert Gontran Jono Ahaba, pressenti Premier ministre après l'accord de Khartoum. Souleymane Daouda, le porte-parole de l'UPC, un groupe armé très actif dans le centre et le sud-est du pays, est nommé ministre de l'élevage et de la santé animale. Des départements comme les travaux publics, les transports, le tourisme sont aussi tenus par des représentants des groupes armés. Première réaction, c'est le Front démocratique du peuple centrafricain, FDPC, qui monte au créneau. Ce mouvement armé, actif dans l'ouest et dans une partie du nord-ouest, a exprimé son mécontentement dimanche en interdisant la circulation sur une partie du corridor Boar-Beloko. Mécontentement parce que son chef Martin Koumtamadi, alias Abdoulaye Miskine, en exil à Brazzaville au Congo, ne fait pas partie du nouveau gouvernement. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le Tchad a annoncé dimanche la fermeture de sa frontière avec la Libye un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen, selon le ministre de la Sécurité, Mahamat Sabah Ali Salah, en visite à Koury Bougoudi, dans le nord-ouest du Tchad, au Tibesti, théâtre d'affrontement des orpailleurs et l'armée ces derniers mois. Le ministre a indiqué dimanche que cette zone est devenue un carrefour de tous les malfrats des terroristes et des rebelles. Le Bénin s'achemine vers des élections législatives sans la participation de l'opposition, qui se plaint de lois taillées sur mesure. Selon elle, en tout état de cause, à la date limite de dépôt des dossiers à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, 7 partis politiques proches du pouvoir ont pu déposer leurs dossiers. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Jennifer Adandé.
Ni les fausses courries pour un Bénin émergent de l'ex-président Yahya Boni, ni restaurer l'espoir de Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense Patrice Talon, ne sont en course pour les législatives du 8 avril prochain. Seule l'Union sociale libérale de Sébastien Ayavon a pu déposer son dossier. Là encore, sans le certificat de conformité pour le représentant de ce parti, le dossier déposé respecte les normes établies par le code électoral. Donc, Clément Balou.
Dans la loi électorale, on a énuméré toutes les pièces qu'il faut pour faire valider sa candidature à la Sénat. Dans les pièces prévues par la loi, il n'y a pas trace du certificat de conformité. Ça n'existe pas. Le certificat de conformité vient d'une décision décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne fait pas la loi, ne légifère pas, en tout cas pour le moment, tant qu'il y a l'Assemblée nationale.
Sans le certificat de conformité, le dossier de ce parti de l'opposition encore en jeu pourrait être rejeté. Quelques heures après la clôture du dépôt des candidatures, l'opposition est montée au créneau pour exprimer sa volonté de participer aux élections, quel qu'en soit le prix à payer.
Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019. Prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale.
Les marches de protestation se multiplient un peu partout au Bénin pour dire non à une élection sans l'opposition. Après avoir déploré l'absence des dossiers de l'opposition à la Sénat, Martin Assogba de l'ONG Alcré pense que force doit rester à la loi. L'opposition, selon lui, aurait pu tout faire pour se mettre à jour.
Nous n'allons pas tout le temps prendre des lois qui sont promulguées par le chef de l'État et que ces lois-là soient mises au placard. Non, force doit rester à la loi. Ils ont dit qu'on ne pourra pas faire les élections sans eux, j'en conviens, mais il faut que la loi soit respectée aussi.
L'opposition ne voit pas les choses de cette façon. Pour de leur faton des fausses courries pour un Bénin émergent, le pouvoir en place a tout fait pour les éjecter de la compétition.
Depuis le début, l'intention était claire que le pouvoir en place avec les institutions en charge des élections n'ont pas voulu que nous participions aux élections. En tant que parti politique, en tant que béninois, en tant que patriote, nous avons tout fait. Ce qu'un parti politique peut faire pour avoir le certificat de conformité, ils ont aussi tout fait pour nous empêcher de l'avoir. Nous avons jugé utile de ne pas déposer, de nous replier pour savoir ce que nous allons faire.
Encore quelques jours pour que la Sénat rende disponible la liste des partis retenus parmi les 7 qui ont pu déposer leur dossier. En attendant, une commission de la CEDEAO séjourne depuis dimanche à Cotonou et ce jusqu'au 6 mars. Sa mission, évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines législatives. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Merci Ginette. 4 touristes américains et un pilote kenyan sont morts dimanche soir dans l'accident de leur hélicoptère sur une île du lac Turkana. C'est dans le nord-ouest donc du Kenya, a annoncé lundi la police. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Les identités des victimes seront divulguées lorsque leurs proches auront été informés, précise le communiqué.
Nos infos sur voaafrique.com.
À Washington, Jean-Roger Billon à ce micro. La suite de ce journal, les pourparlers de paix entre les États-Unis et les talibans progressent pas à pas, a déclaré un porte-parole des talibans. Ceci au lendemain d'une attaque d'envergure contre une base qui a fait de nombreux morts. De nouveau, Idriss Fall.
Les discussions entre les deux parties ont repris samedi à Doha, au Qatar, après une suspension de 2 jours pour permettre des délibérations internes. Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, a dit hier dans un communiqué que les pourparlers progressent pas à pas et que pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. L'équipe américaine est dirigée par l'émissaire Zalmay Khalilzad, qui n'a fait aucun commentaire. Le New York Times a publié un article jeudi disant que le Pentagone prévoit un retrait des forces américaines d'Afghanistan d'ici 3 à 5 ans et qu'un tel plan a été mis sur la table. Washington œuvre aussi pour un cessez-le-feu et l'ouverture d'un dialogue entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, des demandes qui ont été rejetées plusieurs fois par les talibans. Sur le terrain, samedi, une base conjointe américano-afghane a subi une attaque de plusieurs heures dans la province du Helmand. Au moins 23 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a exhorté aujourd'hui les États-Unis et la Corée du Nord à reprendre au plus vite les discussions sur la dénucléarisation après l'échec du sommet de Hanoï la semaine dernière entre Donald Trump et Kim Jong-un. La rencontre Trump-Kim s'est soldée jeudi par un fiasco. Elle a été écourtée sans même que les deux hommes se mettent d'accord sur une déclaration commune. Ils ont néanmoins tous les deux dit leur volonté de poursuivre les négociations. Au moins 23 personnes ont été tuées dimanche par une tornade qui a provoqué des dégâts catastrophique en Alabama, dans le sud-est des États-Unis. Le shérif du comté de Lee, situé dans l'est de l'Alabama, à la frontière avec la Géorgie, a aussi fait état de plusieurs personnes portées disparues et d'autres hospitalisées avec des blessures très graves. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure, bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.